Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
On peut très bien gagner sa vie. L'année dernière, moi, j'ai gagné 300 000 euros.
Le premier pas, c'est le plus difficile, entre guillemets. Commence un petit appartement, T2, autour de chez toi.
10 ans plus tard, j'ai investi plus d'1 million d'euros. On peut investir en immobilier en partant de pas grand-chose.
Et les indépendants, souvent, n'ont pas forcément l'habitude d'investir et de placer leur argent. Ils investissent beaucoup dans leur activité, mais très peu dans leur patrimoine financier personnel.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants. Et aujourd'hui, on va parler immobilier. Immobilier pour sécuriser son avenir, parce que quand on est indépendant, bien souvent, on est plus concentré sur le présent que sur le futur. Et immobilier comme activité, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui exercent une activité immobilière. Pour en parler, comme à chaque fois, 4 invités que je laisse Ombline vous présenter.
Première invitée, Maude Musset, ancienne travailleuse sociale rémunérée au SMIC pendant 15 ans. Maude est désormais investisseuse et entrepreneuse avec un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Il y a 2 ans, Maude décide de se filmer en rénovant un premier bien. Aujourd'hui, plus de 130 000 abonnés la suivent sur sa page Instagram Les Filles Rénovent. Elle y publie des vidéos de ses rénovations et partage ses conseils pour investir dans la pierre en partant de zéro. Son objectif, accompagner les femmes vers plus de liberté financière grâce à l'immobilier. Deuxième invité, Joris Crouzil. Joris est expert immobilier. Ancien ingénieur et responsable financier pour des projets à plusieurs milliards dans le privé, Joris s'est créé un patrimoine immobilier de 5 millions d'euros en 6 ans avec 20 000 euros d'épargne. Par la suite, Joris a fondé Meraxia pour accompagner celles et ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier en complément de leur activité. En 3 ans, Meraxia a accompagné plus de 700 personnes. Troisième invité, Maxime Waflard, 22 ans. Maxime dirige un groupe immobilier composé de sociétés de marchands de biens et d'agences immobilières. Il accompagne des investisseurs dans leurs projets immobiliers, autant sur la structuration que sur le financement. Son objectif, montrer que l'immobilier est un levier accessible pour entreprendre et construire un patrimoine. C'est dans cette logique que Maxime est aussi membre du comité d'investissement de Brix.co, plateforme de crowdfunding qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Quatrième et dernière invitée, Victorie Orsay, chasseuse immobilier indépendante depuis 7 ans sur la plateforme Mon Chasseur Immo, réseau leader de la chasse immobilière en France. Son métier, trouver le meilleur bien au meilleur prix pour ses clients. Contrairement à l'agent immobilier qui représente le vendeur, Victorie travaille exclusivement pour l'acheteur. Victorie a été élue meilleure chasseuse de France en 2025 avec 18 ventes pour plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en tant qu'indépendante.
Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants et la première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que finalement on peut accéder à l'immobilier sans forcément avoir beaucoup d'argent au départ, Maude ?
Oui, moi j'ai toujours eu envie d'investir en immobilier, je pense depuis mes 15 ans, mais j'ai fait le choix d'être travailleur social, ce qui est un job quand même un peu précaire. J'ai quasiment toujours été au SMIC et c'est ce qui a retardé un peu d'ailleurs mon premier investissement. Et je pensais que jamais je pourrais faire de l'immo, jamais je pourrais me créer une vie un peu plus riche et un peu plus chouette. Et en fait, je me suis lancée une première fois tout en étant au SMIC. Et puis le résultat, c'est que 10 ans plus tard, j'ai investi plus d'1 million d'euros. Et du coup, oui, on peut investir en immobilier en partant de pas grand-chose.
Donc, ça casse l'idée reçue qu'il faudrait avoir un apport conséquent, je dirais une vraie base financière.
Beaucoup de gens n'osent pas se lancer, mais c'est plutôt très lié au mindset, en fait. C'est beaucoup de peur, de pensées limitantes. Et on prend l'excuse de l'argent des fois, parce que comme ça, on reste dans une situation confortable et puis on ne prend pas de risque, en fait. Moi, j'ai osé prendre ce petit risque et je me dis, c'était payant. Donc, j'ai vraiment envie d'encourager aujourd'hui un maximum de gens à faire la même chose.
À tel point qu'aujourd'hui, tu en as fait vraiment une activité.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à raconter notre parcours d'investissement, notre parcours de rénovation. Et ça a plu. Donc, aujourd'hui, là, en à peu près 2 ans, on a une communauté de plus de 130 000 femmes qui nous suivent sur Instagram. Et du coup, on les aide à passer le premier cap de l'investissement, que ce soit locatif, résidence principale.
Alors, on le verra juste après. Il n'est pas forcément question d'acheter pour revendre, d'acheter pour revendre. Par exemple, tu disais, ça peut être la résidence principale qui sera revendue dans quelques années et qu'il ne faut pas voir comme un bien qu'on gardera à vie. Et rien que ça, on rentre dans une logique, dans une stratégie immo.
Pour moi, la résidence principale, c'est déjà une stratégie immo, mais qui est ignorée par énormément de monde. Et j'aimerais toutes les personnes qui achètent leur RP aient une casquette d'investisseur et d'investisseuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque une niche fiscale, je pense, on peut le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value quand on achète et on revend sa résidence principale. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Qu'on veuille la vendre au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans, ça serait dommage de s'en priver. Donc, il faut acheter sa résidence principale, mais intelligemment.
Avec cette idée de plus-value, on y reviendra. On casse un peu, avec Maud là, Joris, on casse un peu les croyances. C'est-à-dire que finalement, bah, avec un SMIC, on peut se lancer et aujourd'hui avoir un patrimoine de plus d'un million d'euros, si j'ai bien compris. Donc Joris, ça veut dire que par exemple, cette histoire de bilan, les trois années d'activité, par exemple, tu me disais, bah, en vrai, c'est pas indispensable pour se lancer dans l'immobilier.
C'est ça. Souvent, un petit peu les croyances qu'on a, notamment qu'on est indépendant, qu'on n'a pas forcément de CDI ou de revenus stables, c'est que bah, il faut pas mal d'argent pour démarrer à investir, ce que vient un peu de casser mode. Et à côté de ça, c'est que je dois attendre d'avoir trois bilans pour pouvoir investir, alors qu'on voit dans certains cas que même avant d'avoir ces trois bilans-là, en présentant bien au niveau des banques, c'est possible d'investir. Et aussi, il y a ce côté de « c'est compliqué ». C'est compliqué d'investir en immo parce qu'il faut trouver le bien, il faut passer du temps en visite, etc. C'est sûr que c'est pas simple, mais ça peut se rendre très accessible.
Et d'ailleurs, il y a d'autres moyens d'investir. On n'est pas forcément obligé tout de suite d'acheter de la pierre.
Exactement. Alors, il y a différentes méthodes. Hein. Investir dans l'immobilier en pierre et l'immobilier actif financier, ça permet un effet de levier. Mais il y a aussi l'immobilier type de placement financier, les SCPI ou le crowdfunding immobilier, qui permet aux indépendants d'investir finalement et de mettre un premier pied dans l'immobilier. Et c'est déjà une première étape parce que les indépendants, souvent, n'ont pas forcément l'habitude d'investir et de placer leur argent. Ils investissent beaucoup dans leur activité, mais très peu dans leur patrimoine financier personnel.
C'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. C'est pour dire peut-être que ça peut être intéressant de sécuriser l'avenir aussi avec l'immobilier, Joris.
Oui, en fait, quand on est indépendant, souvent on a un business, surtout au début, qui va dépendre de notre temps. Et c'est bien, mais à un moment donné, est-ce qu'on veut ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans avoir finalement de sécurité financière? Parce que si demain, tu as envie de partir en vacances, vraiment en vacances, pendant un mois, c'est compliqué de lâcher son business complètement pendant un mois.
C'est ça l'intérêt de l'immobilier, c'est vraiment de l'argent qui travaille pour nous?
Ouais, moi je vois vraiment l'immobilier comme un côté passif à long terme. Tu as une phase active, le temps de trouver, etc. Mais une fois que tu as acquis l'immobilier, tu vas garder en locatif, finalement, la gestion, ça prend très peu de temps. Et ça permet d'avoir vraiment un complément sécuritaire.
Est-ce que l'une des clés, Maud, pour démarrer avec très peu, c'est aussi d'être manuel? Parce que toi, tu fais beaucoup de rénovations.
Oui.
Donc, t'hésites pas à mettre le pied à l'étrier et les mains dans le cambouis. Est-ce que c'est l'une des clés?
C'est une des clés, mais c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui aiment pas rénover, qui aiment pas mettre les mains dans le cambouis. Comme tu dis, c'est pas obligatoire, mais forcément, à mon sens, on va faire des plus belles opérations si on met un peu la main à la pâte. Mais il faut faire attention.
Oui, il faut faire attention parce que moi, si je touche à une prise électrique, ça risque d'être fatal.
C'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt par rapport au secteur. Parce qu'il y a des secteurs où ça va pas être intéressant d'aller faire de la réno parce qu'on va pas aller créer de la valeur. Tu parles souvent du coût de revient. On va se retrouver avec un coût de revient supérieur au coût du marché. Et là, ça peut être la catastrophe. Donc oui, rénover, ça peut être intéressant, mais pas partout.
Et surtout, ça demande de la stratégie, de l'analyse et d'être bien conscient de ce qu'on fait. On n'est pas juste là pour se faire plaisir, quoi.
Oui, et d'ailleurs, tu as raison de le préciser. Il y a des postes, nous, on rénove énormément, mais il y a des postes que je laisse aux professionnels. Tout ce qui est sous garantie décennale, je ne vais pas aller ouvrir des murs porteurs, je ne vais pas aller faire de l'électricité. Parce que derrière, dans une optique aussi de revente, je préfère revendre avec les garanties qui sont hyper importantes pour les acheteurs et qui les sécurisent.
Là, on parle de l'investissement immobilier comme moyen justement de sécuriser ses revenus en tant qu'indépendant. Mais il y a aussi énormément d'indépendants qui ont une activité dans l'immobilier. On parle d'agent commercial. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir l'un de ces métiers dans cet épisode. Et ce métier, il est assez peu connu, c'est chasseur d'appart. C'est quoi un chasseur d'appart?
Alors, un chasseur d'appartement, c'est quelqu'un qui est vraiment 100% du côté de l'acquéreur, donc de l'acheteur. Contrairement à l'agent immobilier qui a des biens à vendre, nous, on n'a rien à vendre en tant que chasseur. On va vraiment faire une recherche personnalisée en fonction du besoin du client. Et donc, ça peut être pour sa résidence principale ou pour un investissement locatif.
C'est quoi l'objectif? C'est de trouver le meilleur bien?
Le meilleur bien au meilleur prix et de sécuriser la transaction. Donc, on va tout relire pour lui. Justement, on n'achète pas dans sa vie généralement 150 biens immobiliers, à part si on est juriste. Voilà. Mais sinon, généralement, voilà, les gens en achètent 2 ou 3 maximum. Ils achètent leur résidence principale et la revendent. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, en revanche, toute la journée, je vois des appartements, j'en visite, mes clients en achètent. Donc, j'ai cette connaissance qu'eux n'ont pas, que je leur mets à disposition pour sécuriser leur achat.
Je vais rebondir là-dessus, Joris. Elle vient de dire que tu avais 150 appartements.
Pas très loin.
Non. Pas très loin. J'ai l'impression que c'est surtout une question de gestion, en fait. J'ai l'impression que c'est surtout une question de stratégie et d'organisation et que finalement, c'est plus accessible qu'on ne le croit, l'immobilier.
C'est ça. En fait, souvent, on voit qu'on n'a pas forcément d'expertise, d'expérience en immobilier. On voit ça un peu comme une montagne. Et puis, petit à petit, on rentre là-dedans. Souvent, on commence par quelque chose qui est simple, un premier appartement, un deuxième, puis un petit immeuble, etc. Et Moi, de mon côté, j'ai la chance d'avoir travaillé sur des projets internationaux, multi-projets, etc. Donc, j'avais ce côté gestion de projet. J'ai essayé finalement de transposer sur l'immobilier en me disant finalement, c'est comme un business. Demain, ben, tu travailles sur un premier projet, toi, une première émission, une deuxième saison, etc. Quand tu commences à diversifier, il faut que tu sois capable de simplifier au maximum ta façon de travailler. Et au final, au bout d'un moment, quand tu as plusieurs biens immobiliers, l'idée, c'est de se dire ben, qu'est-ce qui me prend le plus de temps? Comment je pourrais y passer moins de temps? Je peux déléguer, je peux automatiser. Et derrière, ça te permet de pouvoir enchaîner d'autres projets derrière.
Alors moi, j'aimerais dédier cette émission à ma sœur, ma grande sœur qui adore l'immobilier, qui adore mettre les mains dans le cambouis et qui n'a pas encore réussi à passer le cap de l'achat, etc. Et je vais d'ailleurs parler de toi.
En immobilier, moi, j'aime bien dire que le temps, c'est de l'argent. Et en fait, plus elle attend, moins elle va réussir à s'enrichir et avoir cet effet boule de neige. Le premier pas, il est vertigineux. Enfin, et puis, que ce soit pour un nouveau job, un saut élastique, c'est pareil pour l'immobilier. Mais en fait, elle peut trouver soit des personnes qui vont l'accompagner pour assurer un peu ce premier pas. Elle peut soit se former pour monter en compétences, puis du coup, se sentir plus à l'aise. Mais il y a quelque chose que moi, je constate vraiment chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles attendent d'avoir 100% des compétences avant de se lancer. Un avocat, je pense qu'il n'est pas éloquent avant d'avoir plaidé 20, 30, 50 fois. Un boulanger, il a besoin de faire 200 baguettes avant d'en faire une bonne. Et on ne peut pas tout connaître, tout cerner de l'immobilier avant de se lancer. Donc, j'ai pas grand-chose à lui dire à part go, parce que sinon, dans 10 ans, tu me reparleras de ta sœur et elle sera toujours en location.
Et ce que tu peux même lui conseiller, c'est commence simple. Le premier pas, c'est le plus difficile, entre guillemets, mais commence par un petit appartement, T2, autour de chez toi. Et go.
Est-ce qu'il faut mieux acheter sa résidence principale au départ ou plutôt investir dans un...
On ne sera pas forcément tous d'accord, ensemble, chacun sa stratégie. J'avoue que moi, je suis plutôt team investissement locatif en premier, parce que souvent, il y a plus de rationalité sur l'investissement locatif que sur la résidence principale. La résidence principale, on est souvent sur l'aspect émotionnel, on veut être proche de son travail, on ne veut pas forcément faire d'aussi bonnes affaires qu'on a l'habitude de faire nous en tant qu'experts immobiliers, où on l'achète vraiment pour pouvoir bénéficier de l'exonération sur la plus-value à la revente. Là, dans ce cas-là, souvent, la plupart des gens qui achètent une résidence principale perdent de l'argent. Donc, on leur conseille souvent d'acheter un investissement locatif en premier pour pouvoir mettre un locataire en place, que le locataire paye sa mensualité et du coup, qu'on vienne s'enrichir, quitte à payer un loyer à côté dans un premier temps. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt team. On commence par l'investissement locatif.
C'est vraiment quelque chose pour moi aussi de personnel. La résidence principale, nous, dans les personnes qu'on accompagne, on demande vraiment s'il y a un vrai projet de vie derrière. Si c'est juste dire, je veux acheter ma résidence principale parce que je préfère plutôt que jeter de l'argent par les fenêtres, c'est vraiment un aspect financier, c'est rare qu'il y ait un vrai intérêt sur les 2-3 premières années. Par contre, se dire, j'ai moi le besoin émotionnel, etc., de me sentir chez moi, on va pouvoir aller dessus. Mais le plus important, en fait, dans chaque investissement qu'on fait, puisque la résidence principale est un investissement, c'est d'être sûr que ça ne va pas te bloquer pour le projet d'après. Ça, c'est le plus important. Je prends mon exemple perso. J'habitais à Paris. J'aurais pu très bien acheter ma résidence principale. Mais en fait, ça m'aurait bloqué après, derrière, en termes de taux d'endettement, en termes d'épargne disponible, etc., pour faire d'autres projets locatifs. Donc, j'ai plutôt choisi l'option d'aller investir en province. Et finalement, avec la capacité de financement, d'endettement que j'avais, plutôt d'acheter un appart à Paris, j'ai acheté une dizaine, quinzaine d'appartements en province. Et finalement, les loyers des appartements en province me payaient mon loyer à Paris. Parce qu'en fait, l'excédent de trésorerie me permettait d'être logé à Paris.
On se rend compte quand même qu'on est sur aussi une notion d'attachement au bien, quoi.
Ouais.
Il y a vraiment un levier, un pan psychologique qui est super important. Ou est-ce qu'on le voit comme effectivement un levier financier ou est-ce qu'on le voit comme une partie intégrante de sa vie, quoi, Maud?
Alors, c'est une très bonne question et je pense que c'est ce qui bloque aussi beaucoup de gens dans le fait de pouvoir répéter des opérations. Nous, je sais qu'on voit... en fait, le plus dur pour moi, c'est de quitter sa première résidence principale, en fait, parce qu'on y est très attaché. Nous, aujourd'hui, on pense nos résidences principales, je disais, avec une casquette d'investisseuse. Donc, quand on achète nos résidences principales, on se dit, qu'est-ce que les gens vont rechercher dans 3, 4, 5 ans? On essaie d'être en avance sur la décoration. On fait que du sur-mesure pour partir. En fait, on vend des biens clés en main. Et l'idée, c'est de partir avec nos enfants, la vaisselle et les animaux et rien d'autre. Du coup, moins de charge mentale, une belle plus-value. Puis tout le monde est content, quoi.
Ouais, il y a un détachement par rapport au bien qui est super important.
Je dis souvent à mes clients qui achètent une résidence principale, ce n'est pas l'appartement de votre vie. Pensez que là, votre vie va évoluer, vous allez peut-être avoir des enfants, vous allez peut-être vous séparer malheureusement, des événements de vie qui font que vous allez déménager. Donc, ce n'est pas l'appartement de votre vie. En revanche, ce qui est important, c'est de bien l'acheter pour pouvoir ensuite bien le revendre, effectivement, parce que tout se joue lors de l'achat, en fait. Si on a bien acheté, on peut bien revendre. Enfin, je pense que voilà, tout le monde est d'accord là-dessus.
Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis, les femmes que j'accompagne, en tout cas qui veulent investir, c'est à peu près dans la même idée, je leur dis, en fait, l'immobilier, il a différentes couleurs, il y a différents projets, différents intérêts, différents budgets. Et ça évolue au cours d'une vie. On ne va pas le faire le même projet quand on a 25 ans, que quand on a des enfants, que quand on a un héritage tout d'un coup de 50 000 euros. Donc, no stress, bien acheter, ça veut dire que tu pourras de toute façon bien revendre. Et au fil de ta vie, le but pour moi, c'est que l'immobilier rentre dans la vie des gens, qu'ils n'en ressortent jamais. Et puis, les projets, ils seront très différents au fil des années, quoi.
Tu dis, Maud, on a appris aux femmes à épargner, pas à investir. On leur a appris à être prudentes, pas à prendre des risques.
Ouais, je le constate beaucoup. En fait, il y a vraiment une part de mindset qui est ultra bloquante dans la plupart des projets des femmes que j'accompagne. Peut-être que tu le constates aussi. Ouais. Et en fait, je me rends compte que, comme je le disais tout à l'heure, elles attendent d'avoir 90% des compétences pour investir. Elles pensent qu'elles vont peut-être mettre en difficulté le budget d'une famille, etc. Alors qu'en fait, quand on désacralise un petit peu tout ça, on se rend compte que c'est pas plus compliqué que ça de se lancer, en fait. Mais les femmes que j'accompagne, moi, sont très prudentes. Et certaines repoussent leur projet d'investissement depuis plus de 10 ans. C'est pas rare.
Elles sont plus peureuses que les hommes?
Je sais pas si elles sont plus peureuses, mais elles prennent moins de risques. J'accompagne des femmes qui sont en couple et elles me disent, en fait, je me suis pas préoccupée de la question de nos investissements. Parce que moi, je gérais le quotidien, la vie de famille, etc. Donc, du coup, des fois, elles se retrouvent à des proportions assez inégales, en fait, dans l'investissement immobilier. Elles se retrouvent lésées au moment de la séparation. Et moi, l'idée, c'est de leur dire, prenez en main cette question des investissements. C'est aussi votre indépendance financière qui est en jeu. Faut que les femmes soient plus indépendantes par rapport aux questions d'argent.
Et qu'elles prennent en main ces questions-là et qu'elles laissent pas, effectivement, l'homme s'occuper de la question du patrimoine.
Exactement.
Joris.
Ouais, on constate, nous aussi, dans ce côté femme, qu'elles sont beaucoup plus réfléchies et elles ont besoin, des fois, d'un peu tout contrôler avant de passer à l'action. Alors que côté homme, on va être un peu plus fonceur. Puis aussi, il faut pas se le cacher, dans l'immobilier, c'est beaucoup un domaine d'hommes, notamment sur la partie de travaux, etc., qui peut un peu faire peur. C'est des gros montants aussi. On est sur 50, 100, 150 000 euros minimum sur des acquisitions. Et donc, elles aiment bien, je pense, rationaliser un petit peu tout ça avant de passer à l'action. Et c'est ce qui fait que, comme le disait Maud, on s'en rend compte aussi sur la partie des personnes qu'on accompagne. Il y a vraiment un côté mindset qui est hyper important de dire finalement, oui, c'est possible. Oui, je me sens capable de le faire. Je peux le faire. Et une fois qu'on a débloqué ça, on peut avancer.
Justement, Joris, comment est-ce qu'on en fait un business? C'est une question très simple pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que je fais un business dans l'immobilier?
En fait, un business dans l'immobilier, c'est de se dire de piloter comme tu piloterais ton business, en mode je peux créer mes équipes, je pilote finalement par les chiffres, je fais des analyses qui sont rationnelles et derrière, j'ai une stratégie. Court terme, moyen terme, long terme.
Mais c'est réservé à des profils de gens patients.
C'est des personnes qui vont comprendre, comme dans un business, que tu vas jamais tout maîtriser. Quand tu es dans un business, tu vas pas maîtriser de suite le marketing, le sales, le personal branding, etc. Mais en fait, tu tentes ton premier client, ton deuxième client, petit à petit, t'apprends, retour d'expérience, tu t'améliores. En fait, l'immobilier, c'est pareil. C'est souvent, on a tendance à se comparer. Sur les réseaux sociaux, tiens, telle personne, il a 2 millions, 3 millions, tant de biens. Mais cette personne-là, elle a commencé peut-être par un appartement, un deuxième. Et pour moi, c'est vraiment désacraliser un petit peu tout ça.
Maxime ?
On peut en faire un business aussi. Alors, ça dépend à quelle échelle, mais en étant indépendant, en ayant son activité à côté, on peut évidemment le soir s'y mettre, commencer à regarder la partie investissement immobilier, se former, s'informer. C'est hyper important aujourd'hui, je trouve, de commencer par ces étapes-là. Et à côté, ça ne prend pas énormément de temps d'investir immobilier. On a l'impression que c'est des dizaines, des centaines d'heures par semaine. Mais si on a les bons process et que ce qu'on applique sur son business, on l'applique aussi sur sa recherche de biens d'investissement locatif, on arrive facilement à dégager du temps pour faire des visites, faire des offres d'achat. Et après, dans l'immobilier, on peut quand même quasiment tout déléguer avec des personnes de confiance, en s'informant bien sur tout ce qu'on peut faire. Mais les travaux, on n'est pas obligé de les faire soi-même. On peut les déléguer totalement à une personne qui va les faire pour nous. Évidemment, ça va impacter la rentabilité. Mais derrière, ça peut nous permettre de garder son temps sur la partie indépendance. J'aime bien dire qu'il vaut mieux faire que ne pas faire. Donc même si c'est mal fait, je trouve... bien faire quand même, mais je trouve qu'on peut quand même arriver à faire certains projets.
Le mieux est l'ennemi du bien.
Exactement.
Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, encore une fois, c'est une question de personnalité aussi, hein, parce que moi, j'ai des potes, et ils n'ont aucun souci avec le fait d'acheter des ruines ou des trucs où ils sont là, ouais, investissement, ils ont leur Excel avec projection sur 100 ans. Moi, ça me dépasse. Vraiment, je me sens tellement un petit peu éloigné de tout ça. Autre moyen de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est de travailler dans l'immobilier. Je le disais, il y a beaucoup d'agents commerciaux, d'agents indépendants. Il y a des réseaux qui se sont créés comme ça avec des agents qui cherchent des appartements. Toi, t'es chasseur d'appart. Combien ça rapporte d'être chasseur d'appart?
Alors ouais, l'immobilier, c'est un métier où en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc tout le monde, du jour au lendemain quasiment, peut devenir mandataire immobilier indépendant, soit du côté des vendeurs, soit comme moi, du côté des acheteurs. On peut très bien gagner sa vie, effectivement. L'année dernière, moi, je peux tout à fait te le dire, j'ai gagné 300 000 euros. C'est mon chiffre d'affaires perso. Donc, on peut très bien gagner sa vie. Maintenant, c'est un métier voilà, intense. Il faut se donner hein, quand même les moyens pour...
C'est quoi une journée type?
Il n'y a pas de journée type. C'est ultra varié et c'est ça que moi, j'adore. C'est que tu as beaucoup de relations avec les clients, forcément, parce que c'est un accompagnement. Il y a beaucoup de visites aussi. Et puis, beaucoup de parties de relationnel. Travailler son réseau, donc aller voir des agences, trouver des vendeurs, des notaires.
Oui, il faut être présent sur le terrain, il faut être connu, reconnu
c'est ça,
pour être
ça.
Recommandé.
Exactement, c'est un métier de terrain et de relationnel.
Est-ce qu'il y a, moi quand j'ai préparé cette émission, on m'a dit « Attention Ludovic, il y a beaucoup de vendeurs de rêves dans l'immobilier, j'ai pas caché en plus que j'étais pas le premier expert, donc on m'a dit « Fais attention ». Qu'est-ce que vous en dites de ça, de tous ces vendeurs de formation et de... C'est vrai qu'on a vu beaucoup de publicités, « Devenez millionnaire en quelques minutes ». J'exagère.
C'est vrai.
Moi, qu'est-ce que t'attends, Ludo?
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre quand je vois ça, c'est si vraiment tu vis de l'immobilier avec tes investissements, pourquoi t'as besoin de vendre des formations?
Très intéressant comme question.
Non, mais c'est une question à laquelle j'adore répondre, moi. Ouais. Puisque du coup, j'ai une formation, un accompagnement autour de l'immobilier. Et en fait, moi, ce qui me passionne avant même l'immobilier, c'est l'accompagnement. Parce que j'étais éducatrice spécialisée pendant 15 ans. Et ce que j'aime dire, c'est que si un jour j'ouvre une boulangerie, je sais que 6 mois après, j'apprendrai aux gens à faire du pain. Donc en fait, moi, j'ai ça
c'est
au fond de moi.
C'est la transmission.
Ouais, j'adore ça. L'éducabilité, la transmission, c'est des valeurs qui me portent. Et adjoindre ça à l'immobilier, qui est mon autre passion, bah moi, j'ai trouvé mon job de rêve, en fait.
Il y a vraiment ce côté de se dire, moi aussi, il y a quelques années, j'étais débutant, j'y connaissais rien, j'étais en train de me former sur des vidéos, etc. T'as envie de recréer ce schéma que t'aurais aimé trouver il y a 5-6 ans quand tu as démarré, qui t'aurait permis d'aller plus vite. Quand j'ai fondé Meraxia, c'était vraiment le but de me dire, je rencontre sur des événements des gens qui étaient un peu le moi d'il y a 3-4 ans, qui se posent les mêmes questions, les mêmes doutes, etc. Et qui peut-être vont passer par des chemins assez difficiles, parce que l'immobilier, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup d'argent, aussi bien en gains qu'en pertes. Et si je peux retransmettre toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les pistes détournées par lesquelles je suis passé avant d'atteindre vraiment mes objectifs. Moi, ce qu'on kiffe.
Oui, mais il faut dire les choses quand même, c'est aussi diversifier les revenus.
Oui.
Diversifier les revenus.
C'est une stratégie business. C'est comme moi quand on va me proposer de donner des conseils sur la prise de parole en public. Ça diversifie tes revenus.
Et ça te crée un réseau. Ça te crée un réseau pour te dire.
En plus.
Aujourd'hui, personnellement, la plupart des projets que je fais en marchand de biens, donc achat-revente, sont apportés souvent par des réseaux de mes élèves, des élèves qu'on accompagne, même des artisans, etc. Donc en fait, tu déploies finalement ton réseau aussi.
Par contre, on n'a pas répondu à cette question qu'il y a énormément effectivement de sites peu fréquentables.
Mais il y a quand même beaucoup de vendeurs de rêves. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients quand même qui m'appellent, enfin de prospects, qui me disent je cherche un bien avec 10% de renta à Paris. Je sais que c'est possible parce qu'on me l'a dit dans ma formation sur YouTube.
On a les mêmes.
Typiquement, et on les a tous. On sait du coup qu'il y a des vendeurs de rêves, ça existe.
C'est des vendeurs de rêves.
Il faut trouver les bonnes formations.
Mais je trouve qu'il y a une importance entre guillemets à ce qu'ils soient là. Parce qu'ils font ce qu'on appelle, moi j'appelle du mass market, un niveau de conscience qui est assez bas. Et tous un peu qui, aujourd'hui, on trouve qu'ils investissent dans l'immo, ils sont tombés sur des vidéos comme ça, qui leur a mis une graine que c'est possible. OK, il y a un chemin par lequel ils vendent et qui te donne un peu l'appât du gain, mais ils te font comprendre qu'il y a un autre chemin que le salariat classique, que le chemin qui était tout tracé quand tes parents un peu t'ont donné. À partir de cette prise de conscience-là, après, comme tu dis, Victorie, soit ils prennent des formations et au bout de 6 mois, 1 an, ils se rendent compte que c'est un peu
bancal.
Et soit sinon, ils se disent, OK, maintenant, je vais faire un benchmark aussi de tout ce qui existe en termes de formation, en termes de coaching. Et je vais plutôt aller vers des gens auxquels je m'identifie, auxquels j'aime bien les valeurs et auxquels il y a des vrais résultats. Et de ne pas hésiter, on peut aller taper sur Papers pour voir si la personne elle est vraiment propriétaire de biens immobiliers, etc. Donc, L'idée, c'est de vraiment d'avoir une vraie analyse benchmark.
Peut-être un conseil que tu peux donner, qu'on peut donner aux indépendants, c'est de regarder ce dans quoi ils ont investi, les formateurs. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs immobiliers, je pense que c'est ce dont tu veux parler aussi, qui n'ont pas investi dans l'immobilier et qui, du coup, enseignent quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, de voir qu'il y a certains formateurs, comme Joris, par exemple, qui ont vraiment investi dans l'immobilier et qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis comme mode, par exemple, ça permet de voir que c'est des personnes qui font vraiment et qui font faire après à leur communauté derrière, mais qui ont déjà passé plusieurs heures sur le terrain à réaliser ces opérations et ce qu'ils enseignent après derrière.
Ouais, donc c'est vérifier la déclaration de patrimoine avant de s'engager auprès d'un formateur. Mais c'est super intéressant parce que le meilleur moyen de s'assurer d'avoir un bon formateur, c'est de savoir si effectivement il sait de quoi il parle. Mmh. Il y a un autre aspect que j'ai découvert en préparant cet épisode, c'était le fait d'acheter ses locaux professionnels. Apparemment, c'est intéressant, Maxime.
Quand on est indépendant, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Il faut même commencer par là avant de commencer par l'investissement locatif ou même la résidence principale. Quand tu es indépendant et que tu as tes locaux, les acheter, ça permet évidemment de sortir des normes du HCSF. C'est le Haut Conseil de Stabilité Financière qui met des règles en place sur le financement. Le fait de sortir de ces règles-là, ça permet d'avoir un endettement qui, des fois, est un peu supérieur au fameux 35% du taux d'endettement que l'on applique. Et au moins, on est son propre locataire, sa société commerciale ou sa société en auto-entreprise et son propre locataire de son propre bien. On fait beaucoup plus de choses, on s'enrichit et quand on termine son activité en tant qu'indépendant, on a du patrimoine net de dette où on peut remettre un indépendant dedans et gagner de l'argent de manière passive tous les mois.
Le fait d'acheter ses locaux, c'est un peu la base en fait.
Oui, pour moi, ça l'est. Après, ça dépend évidemment des secteurs. Si t'as tes locaux qui sont en plein Paris et que t'as pas la capacité d'endettement d'acheter à Paris, etc., vaut mieux pas s'excentrer ou acheter une activité qui est beaucoup moins commerciale pour juste être propriétaire. Par contre, si tu peux mêler les deux, autant un investissement locatif et une commercialité importante qui répond à tous tes besoins en tant qu'indépendant, pour moi, c'est la base en tant qu'indépendant. Ouais.
Finalement, quand on vous écoute, on se dit qu'être riche est beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine.
Alors, moi, c'est surtout que j'ai longtemps voulu, comme beaucoup de gens, gagner de l'argent et je pensais que ce ne serait pas possible de par mon statut de travailleur social. Et en fait, en redéfinissant ma vision de la richesse, je me suis rendu compte que c'était plus accessible qu'on ne le pense. Et qu'être riche, c'est pas avoir une Porsche garée devant chez soi ou avoir une maison avec un spa et un jacuzzi. C'est avoir du temps pour soi, prendre soin de sa santé physique et mentale, pouvoir être dispo pour ses enfants si on en a besoin. C'est avoir peut-être les petits 200 euros qui nous manquent en fin de mois pour se faire le resto qu'on pouvait pas se payer. Et en fait, quand on revient à des fondamentaux moins extravagants, on se rend compte qu'à partir du premier rachat IMO, on peut avoir une vie plus riche.
Où est-ce qu'on met le mot richesse et il est au-delà de l'argent, en fait, il est dans la qualité de vie.
Ouais, le temps, c'est la plus grande des richesses, c'est exactement
c'est,
ça, quoi.
C'est le temps et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'as ton business et que t'es finalement un peu dépendant de ton business financièrement, ce que tu vas sacrifier souvent, c'est le temps de qualité, passer en famille, passer avec des amis, etc. Je pense que tous les indépendants qui ont lancé leur business sur les 2-3 premières années ont conscience de ça. Et en fait, l'immobilier, l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir quasiment passif, ça va tourner un petit peu tout seul et ça permet vraiment de pouvoir récupérer du temps de qualité et l'attribuer où on veut, sur des projets passion, sur des projets, il n'y a pas forcément une vision financière. Moi, j'aime bien dire que quand j'ai fondé Meraxia, ce qui m'a permis d'aller aussi vite, c'est que j'avais pas de pression financière. Sachant que l'immobilier tourne derrière, tu te dis, finalement, mon business, je peux prendre des décisions qui ne sont pas sur le financier, mais plutôt sur le cœur, sur les valeurs, même si je gagne moins d'argent sur le court terme, parce que, en fait, je sais que j'ai une sécurité un petit peu derrière. Et finalement, tu as aussi plus de temps pour aller le développer et l'immobilier permet vraiment ça.
On entend beaucoup qu'il faut 3 bilans pour pouvoir acheter son premier logement quand on est indépendant. Est-ce que c'est le cas?
J'aimerais te donner juste un exemple. Un couple d'élèves qui a un business digital. Donc déjà, côté bancaire, c'est assez compliqué de faire comprendre ce que c'est un business digital. Sur les voyages, un peu plus compliqué, ils travaillent à l'étranger, en France. Ils ont créé leur business en France, leur société, en février 2025. Ils commencent l'accompagnement en septembre. 4-5 mois plus tard, ils se sont financés un premier immeuble. Ils n'avaient même pas un premier bilan. Or, je ne dis pas que ce cas-là est faisable pour tout le monde, etc. Mais c'est possible. C'est possible dans le sens où l'important quand on est indépendant auprès des banques, c'est qu'on a souvent accès à des conseillers qui sont professionnels et qui comprennent un petit peu ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc en fait, on va vraiment avoir une posture entrepreneur de l'immobilier, faire comprendre qu'on crée aussi sa sécurité grâce à l'immobilier, que c'est complémentaire par rapport à son business. Et souvent, à ce moment-là, les banques, elles regardent plus trop les chiffres de taux d'endettement, de bilan. Elles vont se dire, la personne que j'ai en face de moi, Est-ce qu'elle est capable de gérer son projet immobilier? Est-ce que c'est cohérent? C'est un peu comme dans « Qui veut être mon associé ?» Tu fais un pitch, en fait, et derrière, tu te dis « Ok, la banque, elle va plutôt financer la personne que le projet. » Et en amenant ça, en fait, on se rend compte que les 3 ans de bilan, c'est un peu cette fausse croyance qui te dit bah, « J'attends d'avoir mes 3 ans avant de me lancer. » Puis après, « J'attends d'avoir 15 000 euros avant de me lancer. » Puis après, « J'attends de « Ah non, là, je vais peut-être trop payer d'impôts. » etc.
Le message, c'est oser aller voir votre banquier.
Toujours. En fait, l'idée, c'est d'oser aller le voir, même si on n'a pas trouvé le projet, mais au moins pour expliquer pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qu'on a comme avantage à le faire sur le court terme, moyen terme, et de trouver surtout un partenaire qui comprenne le profil et qui après est prêt à nous suivre sur plusieurs projets derrière.
Ça a l'air hyper intéressant, tout ce que j'entends sur l'immobilier, mais est-ce que c'est risqué?
Enfin, si on ne veut pas prendre de risques dans la vie, on reste chez soi. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, les besoins fondamentaux. Tout en bas de la pyramide, c'est manger, boire, dormir, respirer. Et juste au-dessus, c'est le besoin d'être en sécurité. Donc, c'est avoir accès aux soins et avoir un toit au-dessus de la tête. Donc, en fait, tout de suite, on touche à l'immobilier, on touche à la pierre. Donc, investir en immo, c'est aussi investir sur un besoin, finalement, qui est fondamental. On ne parle pas de la volatilité des crypto-monnaies ou des choses comme ça. Pour moi, c'est oui, investir en immobilier, c'est quelque chose de sûr.
J'aimerais qu'on prenne un exemple très concret en partant des revenus d'indépendants. Par exemple, si j'arrive à mettre 10 000 euros de côté par an.
Tu arrives à mettre 10 000 euros de côté par an, la banque va te prêter les 90 % qui restent. Donc, tu peux lever 100 000 euros en termes d'emprunt bancaire. Ces 100 000 euros, tu vas pouvoir acheter très facilement un appartement. Je prends un exemple, un T2 de 30-40 mètres carrés dans une ville qui est jusqu'à 2-3 000 euros du mètre carré maximum. Ça te permet d'avoir ce qu'on appelle de l'autofinancement où les charges se couvrent. Et ça, finalement, si t'es 10 000 euros, tu arrives à les mettre de côté tous les ans, cette opération, tu peux la dupliquer tous les ans. Et au bout de 10 ans, tu vas avoir un patrimoine, on va dire, acquis de 1 million avec 100 000 euros d'épargne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si tu investis dans un secteur qui prend 3-4 % à l'année, au bout de 10 ans, sur le 1 million que tu as acheté, il va valoir 1 320 000 et il va te rester à peu près que 550 000 euros à rembourser.
On sent l'amour des chiffres dans les yeux de Joris.
Et donc, tu as créé un patrimoine net de 700 000 euros.
C'est concret, c'est factuel et c'est accessible et c'est à la portée de tous. Et c'est bien le signe, que ce soit pour en faire un business. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut assez rapidement en faire un business.
On peut.
Ou que ce soit pour sécuriser ses revenus, c'est hyper intéressant, ou encore travailler dans l'immobilier. Victory, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier? Qu'est-ce qui te plaît en fait dans l'immobilier?
Moi, c'est vraiment l'accompagnement du client dans son projet de vie. En fait, je suis tombée dans ce métier parce que j'ai voulu acheter ma résidence principale le plus tôt possible parce que je me disais, l'immobilier, c'est le placement le plus intéressant. Et à cette époque-là, je suis passée par un chasseur. Donc, j'ai découvert le métier en même temps. Et ça y est, une fois que j'étais tombée dedans, j'étais dans la marmite. Ça m'a tellement passionnée que j'ai voulu répliquer ça en accompagnant moi-même d'autres personnes à passer le pas.
Et aujourd'hui, tu fais 300 000 euros par an, donc c'est une activité qui est porteuse, mais qui nécessite quand même, à mon avis, d'avoir une sacrée énergie.
Beaucoup d'énergie, mais malgré tout, on a beaucoup de temps à côté. Enfin, moi, je pars en vacances à chaque vacances scolaires, tu vois. Je m'occupe de mes enfants.
Oui, il y a aussi une vraie liberté du temps.
L'immobilier donne une vraie liberté, que tu sois investisseur ou que tu aies ton métier dans l'immobilier. Pour moi, c'est ça le plus beau dans l'immobilier, c'est que ça t'offre la liberté.
Un dernier mot pour finir, un conseil, un message pour finir cet épisode, Joris.
Moi, j'aime bien dire que le business concret n'est pas forcément quelque chose qui va être stable dans le temps. Et donc, pour moi, l'immobilier, que ce soit sa résidence principale ou un investissement locatif, doit être vraiment prioritaire pour chaque personne pour vraiment sécuriser son avenir.
Victory.
Une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Et donc, ce que je réponds toujours aux gens qui me demandent ça, c'est le meilleur moment, en fait, c'était hier. Faites, et c'est mieux que ne pas faire.
Oui, en résumé, le temps, c'est de l'argent.
Exactement.
Maud.
Oui, pour terminer, moi, j'ai envie d'inspirer un petit peu les femmes, puisque c'est elles que j'accompagne, en tout cas avec les filles Rénov, c'est de leur dire que nous, on est partis du SMIC il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a réussi à se créer un patrimoine qui est proche du million d'euros en faisant ça à côté de notre job. Donc, c'est possible, même en partant de zéro et même en étant au SMIC. Donc, les femmes qui ont peur, c'est OK, on ne pourra pas faire totalement extinction des peurs, mais c'est faites-le en ayant peur parce que vous pouvez vraiment vous créer une vie plus riche. Mais on l'a vu tout à l'heure, la richesse, ce n'est pas forcément avoir une Porsche devant sa maison. Une vie plus chouette et plus à votre image grâce à l'immobilier. Donc, il n'y a aucune raison pour moi de ne pas se lancer.
Et ne laissez pas seulement vos maris s'y intéresser et décider de toutes ces questions.
Quelque chose que j'aime bien dire, c'est regarder quel est à quel pourcentage vous avez acheté votre résidence principale avec votre conjoint. Parce que souvent, il y a des femmes qui sont surprises. Elles se rendent compte qu'elles ont acheté à 60-40 sous prétexte qu'elles ont des revenus inférieurs. Sauf que souvent, elles ont des revenus inférieurs parce qu'elles sont mises à temps partiel pour s'occuper des enfants. Donc, c'est un travail domestique qui n'est absolument pas valorisé. Et elles se retrouvent beaucoup plus précarisées que leur conjoint au moment d'une séparation. Alors qu'en soi, il n'y a aucune raison qu'elle le soit. Donc, intéressez-vous à ce qui se passe chez le notaire, mesdames.
Hyper puissant, ce que tu dis là. Hein. Mmh. Vraiment, c'est hyper intéressant. Maxime.
Pour finir et pour clôturer là, sur cet épisode-là, on investit des jeunes. Je suis jeune. Moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'avais 18 ans. Donc, c'est possible d'investir quand on est jeune. Quand j'ai commencé à investir, c'était pour une seule chose. C'était parce que je me disais qu'on n'aurait pas de retraite plus tard. Et plus on avance, plus j'ai l'impression que le système de retraite est de moins en moins intéressant, de moins en moins lucratif. Et surtout pour les indépendants. Le message je pense à leur faire passer, c'est d'investir dans l'immobilier pour garantir leur retraite.
Tu crées ta propre sécurité, ta propre retraite. Et l'important, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme où tu te dis, je commence maintenant, même si je ne commande pas super bien le meilleur des projets. Mais on le disait tout à l'heure, fait vaut mieux que parfait. Et en fait, à une vision 10 ans, 15 ans, même 20 ans, même si aujourd'hui, on peut être jeune et on ne pense pas tout de suite à la retraite, est-ce que tu as envie de travailler pendant 40, 45 ans et d'être dépendant de ça?
En tout cas, on l'aura bien entendu dans cet épisode, c'est que c'est possible, c'est que c'est accessible et que c'est un bon moyen pour sécuriser l'avenir et pourquoi pas pour en faire un métier même. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cet épisode du podcast des indépendants. Quant à nous, on se retrouve un jeudi sur deux avec un nouvel épisode sur BFM Business, bien sûr. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.